Ils sont 28 stagiaires qui, depuis novembre 2006, découvrent et pratiquent, à l'invitation du GMEM, Centre National de Création Musicale, le gamelan. Un instrument baliné à géométrie variable. Celui qui est à Marseille et sur lequel jouent ses stagiaires est le deuxième plus grand gamelan baliné de France. Ce stage est encadré par Andy Channing, maître de musique balinaise, et Gaston Sylvestre, percussionniste marseillais, et aboutira le 14 mai prochain à un concert présenté dans le cadre du festival Les Musiques 2007 à la Friche Label de Mai. La grenouille est allée voir d'un peu plus près ce qu'était ce gamelan, et Gaston Sylvestre commence par nous expliquer la raison de la présence de cet instrument ici.
C'était en 1985 qu'on a décidé si on pouvait essayer de trouver un village qui joue de la percussion et qui fasse du théâtre. Et on a penché sur Bali. Quand je dis « on », c'est le trio Le Cercle, fait de Willy Coquilla, Jean-Pierre Drouet et moi. Et on est trois percussionnistes qui font beaucoup de théâtre musical. Et donc on a cherché un village où on pourrait essayer une expérience de langage commun avec ce village. On a choisi Bali. On est arrivé à Bali, on a trouvé un village qui est le village de Sabeu, dans le canton de Gagnard. D'abord, on s'est rendu compte que quand on est arrivé, il y avait des fêtes du village et ils ne pouvaient pas travailler avec nous. Donc nous, on a répété dans notre coin et puis tout autour de nous, il y avait des maçons, des charpentiers qui refaisaient le toit, etc., etc. pendant une semaine. Et quand on s'est mis face enfin au gamelan, c'était toujours ces mêmes mecs qui étaient là, qui avaient fait le toit, la cour, etc., etc. et qui connaissaient déjà notre musique quasiment par cœur. À la triple croche-près, ils attaquaient tous absolument. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'historique. Ensuite, on est rentré en France et le spectacle n'était pas fini. Donc l'Association française d'action artistique nous a demandé de repartir là-bas une troisième année. Une année pour choisir le village, la deuxième année donc pour répéter avec eux, et la troisième année pour finir ce spectacle. Qui a donné lieu à une tournée sur Java et Bali, et enchaîné cette tournée sur le Festival de Marseille, à la Vieille Charité, où on a joué, enchaîné avec le Festival d'Avignon, et ensuite avec une représentation à Paris. Et pour des raisons bassement matérielles, qui s'expliquent facilement, c'est-à-dire que, comme on travaillait avec le village baliné en tournée, et qu'il fallait rentrer immédiatement en France, le gamelan ne pouvait voyager que par bagage accompagné, et ça coûtait une fortune. Et donc, pour le retour, on a évité ce retour, donc on a acheté le même gamelan qui a été construit à l'identique de celui de ce village. C'est pour ça qu'il y a des couleurs bleues, parce que Sabeu a des couleurs bleues. C'est pour ça qu'il y a cet accord, parce que c'est le même accord que Sabeu. Et donc, on a gardé ce gamelan en France, qui fait que maintenant, quand il y a des tournées de troupes balinaises qui viennent, souvent ils demandent si on peut jouer sur ce gamelan, parce qu'ils savent qu'il est en parfait état, etc., etc. Je ne sais pas si vous connaissez Cathy Bassé, c'est celle qui a fait l'année dernière les épreuves de bac pour la musique traditionnelle. Et on l'a rencontrée le premier jour de notre arrivée là-bas. Et on nous l'a présentée parce qu'elle était étudiante à l'ASTI, qui est le conservatoire de Bali. Et elle nous a pu quitter sur ce projet. Et je dois dire que si elle n'avait pas été là, ce projet n'aurait jamais pu fonctionner. Parce qu'elle parlait évidemment indonésien. Ce que ne savait pas le village de Sabeu, c'est qu'elle parlait aussi balinais. Et quand ils s'exprimaient entre eux, elle faisait semblant de ne pas comprendre, mais quand on rentre à l'hôtel, on pouvait tout comprendre. Et donc, si on n'avait pas eu Cathy, je pense qu'on ne pouvait pas faire le spectacle. Mais Cathy est quelqu'un qui est très à cheval sur tous les principes, c'est-à-dire que quand le gamelan a été construit, elle est venue nous voir en nous disant « Bien, ben, maintenant, il faut le bénir. » « Bon, oui, bénissez le gamelan. »« Ah oui, mais il faut que vous soyez présent. » Et donc, on a été bénis avec le gamelan. On est au milieu du gamelan, au milieu de tout le village qui est autour, qui est absolument enchanté de voir des couillons européens au milieu de tout ça, avec donc il y avait Cathy au milieu de nous, elle nous a dit « tu fais les mêmes gestes que moi ». Heureusement qu'elle était là. Et puis il y avait le prêtre qui a fait tout un tas de cérémonies. Une fois qu'il a été béni à Bali, elle m'a dit « maintenant il faut que le gamelan puisse jouer dans le plus grand temple, le plus sacré de Gagnard ». J'ai dit « ben d'accord ». Voilà, donc on a assisté à ça. Ça donnait une épreuve assez un peu bizarre. Parce que quand il a été joué dans ce temple, c'est une musique qui est très lente, très calme. C'est un rituel qui est lent. Les transes ne sont pas des transes violentes. Quand on tombe en transe, on danse. Donc c'est pas des choses qui sont violentes. Et c'est la première fois qu'on écoutait ce gamelan. Alors donc évidemment, on était très proche du gamelan pour l'écouter de toutes nos oreilles. Et pendant que j'écoutais ça, j'ai eu à un moment donné l'impression que les os de mon crâne frisaient. Boum! Alors, évidemment, chaque fois qu'il arrive un phénomène sonore qui te provoque une réaction, tu cherches à comprendre ce qui se passe. Et plusieurs fois, ça m'a fait... Et j'étais un peu étonné, donc je regardais mes amis pour savoir si eux aussi avaient des phénomènes pareils. Et puis, je vois Willy qui fait « mais pas en même temps que moi ». J'ai dit « tiens, c'est bizarre, parce que si c'est un phénomène qui revient de la musique, pourquoi il réagit pas comme moi en même temps ? Si c'est des fréquences qui provoquent ça, donc ça doit être quelque chose de normal. » Puis je regarde Jean-Pierre, il fait « mais pas du tout en même temps que nous non plus ». Et ça a duré comme ça tout le temps de cette cérémonie. Après, j'ai dit à Cathy, j'ai dit « écoute, il faudrait que tu m'expliques quand même. Voilà ce qui s'est passé. » Elle me dit « si vous n'étiez pas assez cartésien avec votre culture, ben vous auriez pu tomber en transe, mais vous l'avez refusé. » C'est un instrument qui est sacré. Quand on est arrivé il y a 15 jours ici, pour la première répétition, il y a Cathy qui m'a dit « on va bénir le gong ». Donc c'est vraiment c'est des choses qui sont récurrentes. Et c'est toujours un rituel que je respecte, hein, même si je comprends rien. Mais bon, je respecte. Donc il faut jouer pieds nus. Pourquoi il faut jouer pieds nus? Je ne sais pas. Sauf qu'on se gèle les pieds parce qu'on n'a pas de chauffage. Mais à part ça, je ne sais pas pourquoi il faut jouer pieds nus. L'enjambé, je peux comprendre pourquoi il ne faut pas enjamber si c'est un instrument sacré. Bon, donc on le contourne. Et je le contourne. De temps en temps, je l'enjambe et je m'engueule. Mais enfin bon, voilà.
Daniel Laurent fait partie de ce stage gamelan organisé par le GMEM. C'est aussi une ex-conseillère pédagogique en musique qui connaît bien son sujet.
Nous, ce qui nous intéresse dans le gamelan, c'est comme c'est un instrument communautaire où on fait des choses simples, où il y a la place pour chacun, mais une fois tout mis ensemble, ça fait des choses très compliquées. On trouvait que c'était un outil pédagogique remarquable parce que les enfants peuvent jouer tout de suite sur des vrais instruments qui ont des beaux sons, des gros instruments où c'est très valorisant et où tout le monde peut jouer tout de suite. Donc on a joué, on a fait plein de jeux avec des maternelles, des primaires, etc. Et puis ce qu'on trouvait très intéressant là sur le plan pédagogique aussi, c'est le fait que ce ne soit pas des notes de chez nous, parce que souvent quand tu donnes un instrument à des amateurs ou à des enfants, ils essayent de reproduire les chansons qu'ils connaissent. Et là, comme on ne peut pas le faire, mais ils sont obligés d'improviser autrement, c'est-à-dire d'aller chercher dans leurs ressources. Et on est plus dans le geste, plus dans l'écoute, plus dans la communication et moins dans la reproduction. Avec en plus tout le monde vibratoire dans lequel on est quand on joue, comme un massage sonore, c'est extraordinaire de jouer dedans. Là, quand tout le monde joue, il y a tout qui tremble dans le bâtiment. C'est très récent que ça se fasse des concerts de gamelan. À l'origine, ça sert ou pour des festivités, ou pour des rituels, ou pour tous les éléments de la vie. Mais souvent, ça se fait avec autre chose. Alors avec de la danse, avec du théâtre, avec des manifestations. C'est très, très vivant. Alors dans le théâtre populaire, tu as le chant, le théâtre, la danse et le gamelan, tout ensemble. Et ça se fait beaucoup aussi avec le théâtre d'ombre à Java. Et ceci dit, ils accueillent les musiques d'ailleurs et puis ils les mélangent avec le gamelan, ça leur pose aucun problème. Par exemple, si tu vas dans un mariage, bah, tu peux avoir le gamelan, le synthé à fond la caisse, les instruments occidentaux, le clavier, la guitare électrique et le violon. Ça ne les gêne pas de mettre tout ensemble. Dans les villages, il y a plusieurs gamelans. Et puis attends, chaque ville, chaque lieu a son accord. Même chaque gamelan a son accord. Parce que l'accord, il est identitaire. C'est le contraire de chez nous. L'idée, c'est pas que tout le monde ait les mêmes notes. L'idée, c'est d'avoir tous des notes différentes, justement, parce que c'est l'identité du groupe, du gamelan. Qu'est-ce qui fait l'identité d'un morceau? C'est pas la mélodie, puisqu'elle change. C'est la structure, selon comme c'est construit. Alors, dans la tradition, autrefois, ils jouaient pas que des partitions, mais maintenant, ça s'est complètement développé, dans la mesure où il y a l'influence occidentale. Donc, même les Indonésiens à Java, ils ont des partitions. Mais c'est pas des partitions comme chez nous. Leurs notes, ce sont des nombres. Donc les partitions, ce sont des nombres, et ça ne s'écrit pas sur des portées, ce sont des lignes avec des nombres, et chaque ligne correspond à une partie, ou à des instruments différents. Et c'est la superposition de tout qui construit la mélodie et la structure de la musique. Il y a une construction qui découpe le temps par les gongs autour. Ce temps est encore subdivisé par les quenongs qui sont là-bas. Tu vois, ça va du grave à l'aigu. Et le quenon, c'est encore subdivisé par les bonangues. Les bonangues, ils font ce qu'on appelle des ornementations. Les autres, ils créent la structure, on appelle ça la colotomie. Et là-dedans, vont rentrer les lames qui, elles, vont installer la mélodie dans tout ça. C'est savant, en fait. C'est-à-dire, c'est une musique populaire savante. Et c'est intéressant parce que, comme c'est construit, il y a de la place pour tout le monde, pour ceux qui sont forts et ceux qui ne le sont pas. C'est pour ça que c'est un instrument vraiment communautaire. C'est l'idée de rassembler tout le monde. D'ailleurs, la devise des Indonésiens, c'est l'unité dans la diversité. Parce qu'ils sont des peuples très différents, avec plein d'îles. C'est ça, c'est toujours concilier des différences et tenir l'unité.
Madame Purnama est javanaise, musicologue et enseignante.
Si on remonte vers les anciens temps, en Asie, oui. Le gong a toujours été très important depuis la Chine. Donc on regarde bien la Chine qui est un grand continent et puis jusqu'au sud de l'Asie, donc continentale, on va arrivé jusqu'en Indonésie, où l'Indonésie, qui est maintenant, il y a 17 000, au moins 17 000 îles, mais auparavant, avec il y avait des grands royaumes qui allaient jusqu'au Laos maintenant, mm-hmm. jusqu'à l'Indochine, jusqu'en Inde. Et donc, toute cette base du gong du premier est importante parce qu'elle donnait aussi comme le son primaire, primordial du son du monde avec son sacré comme d'origine. Très anciennement, ça, on peut méditer sur ces sons et qui permet donc de trouver les vibrations de l'homme. Et cet instrument va être, enfin, ce son-là, du primordial, va ensuite être construit sur d'autres sons. Et le forgeron médite justement pour savoir quel est ce premier son et va construire justement la première note. Et les autres notes se construisent au fur et à mesure. Pour un instrumentiste qui adore le gamelan, donc c'est le son, c'est que des vibrations et on travaille sur ces résonances-là pour savoir à quel moment on va s'écouter, à quel moment on va se mettre ensemble pour vibrer ensemble. Et chaque son, donc chaque son de chaque note, correspond à une partie du corps, mais aussi des parties sacrées de l'homme pour une recherche spirituelle aussi. Donc surtout la musique de Java, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus lente, donc pour sentir ces vibrations. Par exemple, la note 1 va résonner au niveau de la tête, le son 2 va résonner au niveau du cou, le 3 au niveau de la poitrine, le 4 qui est peu utilisé parce qu'elle va représenter toute la beauté universelle, et la 5 qui va nous faire remettre un petit peu nos cinq sens en nous. Et puis la sixième note, la 6, c'est les perceptions, les différentes perceptions, perceptions, intuitions, tout ce qui est au-delà des sens, mais qui est relié aux sens. Et puis la septième note, qui est d'ordre immatériel, invisible, qui est toujours en relation continue avec la vie quotidienne, comme le rêve, comme ce qu'on peut ressentir de l'autre côté sans le dire, mais en tout cas, il est présent.
Le feeling, voilà.
Donc, il y a incontestablement un caractère sacré à cet instrument. Est-ce qu'aujourd'hui encore, j'imagine, qu'il sert pour les cérémonies religieuses ?
Alors, pour toutes les cérémonies, ouais. En fait. Il y a des cérémonies qui sont religieuses, parce que dans la société, le sacré est toujours relié avec le quotidien, tout le temps, continuellement. Mais le sacré, comme là, c'est Java Central, je ne peux parler que de Java Central parce que mes origines sont de Java Central, de Jogja, Borobudur, Solo Et donc là, le sacré, il est aussi de différentes religions. Ça veut dire aussi bien bouddhiste, hindouiste, chrétienne. Et tout ça est intégré. En fait, c'est le sacré qui est en nous. Et donc, avec toutes ces religions-là, mais pas forcément... Pas forcément religieux, parfois on va voir la naissance d'un enfant, le baptême d'un enfant, le mariage, la circoncision. Et puis chaque étape de la vie, il y a un petit kamlan, mais ça peut être juste un gong avec un saron. Ça peut être juste ça, et ça va créer parfois, justement là, il y a eu un festival il y a 2 ans autour du mont du volcan Marapi, tous les villages de ce volcan qui est entré en éruption il y a quelques temps. Eh bien, tous ces villages autour, ils ont créé un festival pour refaire vivre justement des danses de transe et avec juste 3 instruments. Et les instrumentistes rejouent de manière cyclique. La musique et puis les danseurs, les jeunes garçons, parce que c'était une danse qui reliait le garçon vers l'adolescence, un passage de l'adolescence, et bien le fait de faire des morceaux très cycliques, et parfois ils peuvent aller vraiment en transe. Donc ils sont souvent guidés par le maître de musique ou le maître de danse, qui est souvent le même, le maître de musique et aussi le maître de danse, parce que c'est aussi celui qui va apporter l'histoire, la philosophie, le prêtre, voilà. D'accord. C'est tout ça à la fois.
Et alors comment ça se danse
Alors les danses...
Comment ça se passe Est-ce qu'on danse tout seul au milieu d'un cercle? Est-ce qu'on est plusieurs?
Alors, il y a plusieurs danses. Il y a les danses qui sont qui en racontent le Ramayana et le Mahabharata. Mm-hmm. Il y a donc si on est dans le Ramayana et le Mahabharata, il y a soit la danse, on appelle ça le Vayang Wang, Wang qui veut dire homme, et Vayang qui veut dire théâtre. Et puis, soit le Vayang Kulet, on n'utilise que les peaux de buffle. Soit le vaillant collègue qui en utilise des marionnettes en bois, mais collègue qui veut dire chercher, ça veut dire que le prêtre ou le prêtre musicien, celui qui dirige tout ça, doit nous apporter une recherche personnelle, une philosophie. Et puis, donc, tout ça, c'est selon les époques, selon les milieux, selon les régions, change. Et d'autres, comme la danse justement du cheval, j'appelle ça du cheval, où l'enfant, le jeune garçon danse, il est tout seul, il est au milieu d'un cercle, et les parents... là, c'était un festival, donc tout le monde était là. Mais si je vois par exemple mon père qui me racontait son histoire, c'était tous les hommes ensemble, parce que c'était une histoire d'homme, de garçon envers l'homme. Donc il y avait une cérémonie précise. Mais par exemple, à un moment donné, j'ai été invitée pour une autre cérémonie, autre chose. Eh bien, il y avait la population qui était là, tout le monde ensemble. Et puis dans les danses et les musiques, il n'y a pas de spectacle vraiment. C'est intégré, la société s'intégrer dans l'histoire de l'art. L'art est compris dans l'historique. Donc il y a vraiment un échange. Si on a envie de dormir, on dort. Si on a envie de parler, on parle. Et en fait, un enfant ou un adulte va percevoir le message différemment. Et puis ça peut durer 9 heures, comme ça peut durer 5 heures. Et quand on joue de la musique... à ce moment-là, je me souviens, on avait joué de 4h d'après-midi, il était 1h du matin, on se dit mince, il a encore. Et puis on continue parce qu'en fait, on boit du thé, on s'arrête, et puis en plus, on ne s'arrête pas, on continue, on prend le gâteau, voilà.
C'était Madame Pournama, musicologue. Vous avez pu également entendre Daniel Laurent et Gaston Sylvestre, des propos recueillis par Emmanuel Thierry. Le stage Gamelan, dont il était question dans cette émission, aboutira le 14 mai 2007 à un concert qui sera donné dans le cadre du festival Les Musiques 2007, un festival qui se déroulera du 5 au 22 mai prochain.